Veuillez écouter en léger différé depuis les sous-sols de l'hôtel fédéral des Trois Gaules ce témoignage.
Nous sommes en Gaule 50 ans avant Jésus-Christ. C'est pas hier. Nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains après une longue, longue lutte. Toute la Gaule est donc occupée. Toute ? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur.
Qu'est-ce que c'est que le feuilleton véridique et sociétaire des Pentes de la Croix-Rousse ?
En fait, ils font un reportage sur les Pentes de la Croix-Rousse et l'évolution du quartier. C'est un reportage radiophonique. Voilà, donc ils vous disent la suite.
Résumé des épisodes précédents. Après l'occupation, les Pentes de la Croix-Rousse se voient peu à peu dépeuplées. Les manufactures dispersées de soieries débaroulent jusque dans de plus lointains faubourgs que l'on commence à appeler banlieue ou agglomération selon son humeur. Dans ce grand Lyon, les manufactures de moins en moins dispersées continueront d'employer au début du XXIe siècle près de 45 000 personnes. Le quartier industrieux des Pentes verra ses appartements se vider massivement de leurs métiers à tisser ancestraux et de leur population ouvrière dans les années 50. C'est l'époque joyeuse des 30 Glorieuses où le bon président Pompidou entend adapter les villes à l'automobile. On commence à raser le haut des Pentes, mais le peuple, ayant gardé en ses veines crasseuses le gène de la contestation, comme le souligna ensuite dans une saillie pleine de bon sens scientifique le bon président Sarkozy, le peuple donc résista à ce projet et fit capoter ses âneries. C'est ainsi qu'en à peine 8 épisodes, Condat fut transformé en banlieue maraîchère, puis en banlieue résidentielle, puis en colline qui prie, puis en colline qui travaille, puis en colline en colère, puis en colline résidentielle en colère qui travaille. Mais que l'avenir nous réserve-t-il ?
Les calus ont disparu progressivement au début du XXe siècle. Il n'en reste plus un. Et ce quartier a été abandonné 40 ans. C'est dégradé, pas été mis aux normes, beaucoup de logements sans sanitaire, sans WC, sans eau potable, prolétarisation complète, la grande côte pendant la guerre d'Algérie était occupée quasi uniquement par les familles maghrébines, etc. Et on arrive à la rénovation. C'est-à-dire qu'à partir du fin des années 70, j'ai eu de multiples opérations de rénovation immobilière d'abord, pour remettre les logements aux normes, et de rénovation des espaces publics, ensuite la Grande Côte, le bas des Pentes, progressivement on rénove l'ensemble des espaces publics. Changement radical, une population qui n'a plus rien à voir avec la population populaire chez les couches moyennes aisées, qui devient majoritaire sur ce quartier, une vie économique, autrefois il y avait des petits commerçants, des petits artisans dans tous les rez-de-chaussée, maintenant c'est plus artistes, services, enfin, etc. Ce n'est plus du tout le type de commerce et d'artisans qu'on avait autrefois. Et donc, changement complet à tout niveau. Et puis, les espaces publics, bon, on fera progressivement l'ensemble des espaces publics. Voilà.
Le problème, c'est la façon dont ça se fait, quoi. La Grande Côte, c'en est un très bon exemple, parce que je crois que toute personne qui a vécu dans la Grande Côte, dans les 25 ou 30 dernières années, avait évidemment le désir que la Grande Côte ne soit plus livrée aux voitures. Ça vient d'arriver le mois passé, et malheureusement, le résultat, c'est que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voitures, mais il n'y a plus de rues non plus, quoi. L'invasion de l'urbaniste et de son urbanisme. Le résultat, c'est effectivement que la rue est propre, mais absolument plus aucune convivialité. Elle a plus aucun passé, quoi. Je veux dire, il y a quand même une grande négation architecturale et urbanistique de ce que c'était jusque-là.
Il y a une transformation sociale des Pentes de la Croix-Rousse. Ça n'empêche pas qu'il reste un certain esprit, une certaine envie d'y vivre, mais qui est liée aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une transformation qui ne s'est pas faite en dehors de la saignée de la montée de la Grande Côte, elle ne s'est pas faite à coup de bulldozer. Ça a été une transformation du bâti, une requalification du bâti.
Là, ce que je voulais juste vous montrer, c'est les habitations en béton brut là, qui ont été construites. Le maire de l'époque, qui s'appelait Louis Pradel, hein, qui était connu pour son amour du béton, On le surnommait Zizi Béton.
Zizi Béton.
Donc là, ça correspond à la grande côte. Alors,
hein, oui, c'est la grande côte est là, en fait.
D'accord. Ouais.
Et ici, il a quand même réussi à casser le haut de la grande côte, puisque ça en fait un parc assez joli maintenant. Mais, donc il a cassé, il y avait un habitat, sous prétexte, c'était pas forcément un prétexte, hein, c'était vraiment insalubre. Hein, c'était un quartier, quand on le cite dans les années 70, quartier des plus pauvres de Lyon, où on a un quartier d'immigration, notamment, hein, où les plus pauvres des pauvres qui arrivent, eh ben, on les met ici, où ils restent de manière transitoire ici 4-5 ans, et puis ils vont aller à la Duchère, ils vont aller à Vaux-en-Velin, ils vont aller aux Minguettes, à Vénissieux. Voilà. Mais on a encore beaucoup de populations de souches immigrées sur les pentes de la Croix-Rousse, comme je disais, ce qui fait aussi un mélange.
Est-ce qu'il leur a plu j'ai envie de te répondre que s'il leur avait pas plu, je pense qu'ils seraient pas restés pendant aussi longtemps. C'est évident qu'ils s'y sont faits, qu'ils s'y sont plus. C'est évident qu'il y avait des rapports avec les voisinages, qu'ils connaissaient les épiciers du coin. Moi, je me souviens de ma mère, qui aimait bien faire de la couture et tout. À l'époque, il y avait pas mal de commerçants juifs dans le quartier, tu vois, qui étaient des grossistes un peu en tissu, qui étaient pieds noirs souvent, tu vois, qui étaient des gens qui avaient habité en Algérie, donc qui parlaient un peu arabe. Je sais que pour ma mère, c'était plus facile, tu vois, de communiquer avec eux. Des gens qui sont plus là d'ailleurs, tu vois. Il y avait vraiment un tissu social. Ma mère vraiment, elle était bien. Enfin, on était tous bien ici, quoi. Et le truc aussi de ce quartier, c'est que quand t'es dans ce quartier, enfin, tu vois, t'es en ville, t'as tout à portée de main, donc t'as pas spécialement à aller voir trop ailleurs ce qui se passe. Culturellement, c'est riche. Enfin, t'as tout, t'as l'école à côté, t'as l'épicier à côté qui peut te faire crédit si t'as besoin. C'est après, c'est vraiment quand le quartier change ou quand le quartier a changé que je me suis rendu compte que ouais, on était en train de perdre un truc.
Avant, c'était mieux.
Avant, ici, c'était la rue du commerce, on appelait. La rue Burdeau, c'était la rue du commerce. Et il y avait beaucoup de banques au début du siècle. C'était un quartier, il y avait beaucoup de banques pour les soyeux, tout ça. Et après, c'est devenu commerçant.
Et vous habitez ici depuis longtemps?
Moi, oh mon Dieu, ça fait plus de 60 ans que je suis allée au mois. Alors, j'ai toujours été là, moi. Ouais. Toujours. Je suis venue, j'avais 14 ans, j'étais rue Néret, là, et puis je suis toujours rue Néret.
Et ça a beaucoup changé, les quartiers?
Oh oui.
Il y a eu des moments difficiles.
On n'avait pas des rues comme ça, hein. Il n'y avait pas des rues en goudron, là. Tous les gens ont des voitures neuves. Et alors des belles voitures, hein. Mais les gens ont tant de sous que ça pour s'acheter des voitures comme ça.
Là, c'est le mini trolley, l'équivalent des autres, hein, mais pour la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, tout est mini. C'est ça, la Croix-Rousse. Je rappelle, j'aurais pu le dire dès le début, que c'est un des quartiers les plus denses de France. Ça a toujours été. Il y a une grande mixité. C'est un peu le paradoxe de ce quartier où on a quand même beaucoup d'écoles qui sont classées dans ce qu'on appelait les anciennes ZEP, je crois que c'est REP maintenant, alors que les gens s'en doutent pas. Et à la fois, on a un quartier avec pas mal de, on va dire, de jeunes cadres dynamiques à haut revenu qui viennent habiter là, ce qu'on appellerait aujourd'hui un quartier de bobos, hein, sur les pentes, à la fois avec un monde de la nuit, mais justement, ces nouveaux arrivants, ils aiment pas forcément ce monde de la nuit, donc ils font fermer les boîtes ou les clubs. Enfin, c'est quelque chose d'assez marrant, ils viennent chercher une identité ici, et à la fois, ils veulent le calme.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les mutations du quartier est justement poussée par l'arrivée de ces nouveaux habitants.
Aussi, oui. Elle est accélérée par ce qu'on connaît tous, hélas, la pression foncière, hein, où les prix ont augmenté. Et c'est vrai que le plateau de la Croix-Rousse, maintenant, je crois, est plus cher que le mythique 6e à Lyon. Donc, et que les pentes, elles, sont devenues très très chères. Il n'est pas possible, à part si vous avez des hauts revenus, pour acheter sur les pentes. Donc c'est vrai que heureusement il y a une population qui reste ici grâce au HLM, grâce à cette politique là. Sinon en effet je pense que c'est un quartier qui aurait muté entièrement en fait. Hein.
Pour revenir sur ces affiches, tout ça, je pense que les gens, ils veulent aseptiser la vie. Les gens qui habitent le quartier, qui viennent s'installer, ils aimeraient un lieu propre, sain, qui fasse pas de bruit, et puis pouvoir vivre le cul peinard devant leur télé. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont pointés dans un quartier où les gens vivent les fenêtres ouvertes en plein été, gueulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très très fort, mettent la télé à fond. Les bars, on met la musique et on a envie de boire et on chante et on fait la fête. Et c'est un quartier de fêtards. C'était un quartier où il y a eu toujours beaucoup énormément d'étudiants. Les appartements étaient pas chers parce qu'ils étaient vétus, vieux, etc. Donc il y a toujours eu beaucoup de jeunes qui ont habité ce quartier-là. Et l'évolution, justement, a fait que ces jeunes partaient parce qu'ils rénovaient, les appartements augmentent, les jeunes étudiants ont plus les moyens de se payer ces appartements. Et les gens qui s'installent, pour certains, hein, pas tous, aimeraient que ce soit une... Bah, je sais pas, comme à Genos ou à Miribel, enfin, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il soit peinard, et c'est pas possible. C'est pas possible. Les rues sont étroites, les immeubles sont grands, il y a du monde. Voilà. Et moi, je pense que le bruit, comme les affiches, comme les bombages, comme tout, fait partie de la vie.
Parce qu'en fait, il y a quelque chose de fabuleux à la Croix-Rousse, c'est qu'il y a une histoire sociale qui se marie vraiment avec l'architecture, tout ce qui relève du bâti. Alors, déjà, les maisons qui avaient été construites ici, les grandes maisons qu'on connaît, celles qu'on appelle les maisons des canuts, elles avaient été construites pas simplement pour y habiter, pour y dormir, y manger, mais pour y travailler. Donc, c'était polyvalent. Et donc, dans un appartement, il n'y avait pas que simplement une vie familiale, mais il y avait une vie sociale. Vie sociale, ça veut dire confrontation, affrontement, conflit, échange de toutes sortes. Et ça n'a jamais arrêté, ces échanges. Non seulement entre les canuts eux-mêmes, mais avec les gens qui venaient de l'extérieur.
Mais c'est vrai que c'est amusant, parce que c'est extrêmement polémique, et en plus à la Croix-Rousse, c'est magnifique, parce que derrière chaque Croix-Roussien, il y a un canut qui sommeille. Hein. Donc dès qu'il se passe quelque chose, on appelle les canuts à la rescousse.
Ben là, ils discutent, mais il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord avec l'autre.
Il y a de la contestation dans l'air. Ouais.
Et voilà, c'était, je pense, le début de la révolte des canuts. Quoi.
Moi, ma grand-mère vivait déjà sur les pentes de la Croix-Rousse, donc j'y ai même passé beaucoup de temps quand j'étais tout gamin. Et... c'était dans la culture populaire, les canuts. C'est-à-dire que l'histoire des canuts, on te la racontait petit, parce que ça faisait partie de l'héritage du quartier et une certaine fierté aussi, en même temps, d'un certain état d'esprit dans ce quartier. Donc, quand tu es de la Croix-Rousse, tu n'apprends pas la révolte des canuts en te mêlant aux touristes et en allant dans la cour des voraces. Tu l'apprends tout petit, de la bouche de ton père, de ta mère, de ta grand-mère. Et donc toutes les luttes sociales en général ont toujours pris une importance plus importante ici que dans les quartiers plus bourgeois, entre guillemets, qu'on pourrait trouver à Lyon.
Donc aujourd'hui, par rapport au quartier, ce qui est sûr, ce qui en est resté, c'est que si on n'est pas d'accord, on l'ouvre. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce qui reste de ça à la Croix-Rousse, c'est qu'on n'est pas uniformisé, que vous vous baladez dans les rues, bah, il n'y a pas un total look machin... que c'est resté humain. Vous asseyez dans n'importe quel bistrot à la Croix-Rousse, 2 minutes après, vous pouvez tchatcher avec la table d'à côté, voilà. Et puis que si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites.
Et c'est tant mieux.
Juste pour finir donc, sur cette histoire d'identité croix-roussienne, parce que du coup, on dit que depuis quand même 10-15 ans, le quartier est en restructuration. Est-ce que cette identité, elle est menacée du coup aujourd'hui?
Ah non, moi je pense pas du tout qu'elle est menacée, parce que comme je disais que cette histoire de brassage de population, de gens qui se rencontrent, etc., maintiennent ouvert cet imaginaire. Il me semble qu'il existe sur les pentes depuis 2 siècles un imaginaire ouvert. Cet imaginaire ouvert permet de se lancer dans des entreprises coopératives ou associations. Innovante, si on veut.
Écoutons à présent d'anciens nouveaux Croix-Roussiens.
idée de pas habiter les pentes.
On n'a pas idée pas
de ne pas habiter les pentes.
C'est vrai, vous pensez qu'on perd beaucoup à ne pas avoir vécu ici?
Beaucoup de convivialité.
C'est vrai que c'est
parce que regardez dans la rue, ouais, on se rencontre une fois, bon, la deuxième fois, on dit tiens, il y a vite tout le quartier. La troisième fois, on dit bonjour et on s'appelle par nos prénoms.
Voilà. Vous avez toujours vécu ici, vous, madame, alors?
Moi, j'ai 40 ans que j'habite le quartier. Les pentes de la Croix-Rousse, c'est la colline révolutionnaire.
Et ça continue un peu cet esprit rebelle, contestataire?
Oui, c'est bien protestataire.
Et vous, vous en avez fait partie dans les années, par exemple, 60, 70
68
68
Ben alors, on a occupé les usines, comme de partout.
Et vous-même, vous étiez à la barricade?
Oui, moi je suis à la barricade. Moi je fais partie des révolutionnaires. Vous savez, quand vous travaillez pendant... Parce que j'ai 94 ans, alors... J'en ai vu des révolutions, des petites révolutions. On en a fait des grèves pour obtenir ceci, pour obtenir cela. C'est pas facile.
C'est la rue Burdeau, c'est ça? C'est le début de la rue Burdeau?
C'est rue Burdeau, c'est plutôt la fin, ça dépend dans quel sens on la prend, parce qu'elle monte et qu'elle redescend. Et on est à Mab, mon artiste est un boucher, et une imprimerie militante et associative. Dans cette rue, il y a eu une activité militante relativement importante qui se basait sur deux lieux. Le collectif utilitaire lyonnais qui regroupait plusieurs associations antimilitaristes, écolo, libertaires, et Volnitsa qui était donc un bar associatif. Ces deux structures ont servi de piliers en fait et de base pour faire éclore dans les années 84 jusqu'à dans les années 96-17 tout un tas d'activités sur le quartier et notamment les squatteurs. Pour moi, on a commencé à occuper en fait un appartement, place Chardonnay. Comme dans la Croix-Rousse, en règle générale à cette époque-là, beaucoup d'appartements étaient vides et inoccupés depuis très longtemps. Par exemple, nous, celui qu'on a ouvert, il y avait 30 ans qu'il était vide. Et dans l'immeuble où on était, en effet, il y avait plusieurs appartements de vide. Donc au fur et à mesure, on a ouvert un certain nombre d'appartements jusqu'à avoir 8 appartements. On a créé une association qui s'appelait Villa Sans Souci, donc qui avait pour première vocation de dénoncer cette spéculation immobilière. Et deuxième chose, qui réclamait pour un certain nombre d'habitants ou un certain nombre de personnes un immeuble collectif qu'on puisse nous-mêmes gérer, un peu sous d'ailleurs avec un modèle qu'on avait qui s'appelait le 26 rue René Lénaud et qui était en fait un groupe de personnes qui dans les années 70 avaient obtenu de la part des HLM la gestion et la possibilité d'avoir une partie d'un immeuble et de le gérer avec en association. Et à partir de ce moment-là, des gens venaient nous voir en nous disant « bah nous, on occupe aussi un immeuble, une partie d'immeuble, on occupe une maison ». Au fur et à mesure, comme ça, jusqu'à dans les années 95-96, il y a un certain nombre de lieux qui sont ouverts, tout le temps collectifs, tout le temps revendiqués, et qui cherchait à créer quelque chose en fait. Pas simplement le fait d'avoir un toit sur la tête, ça c'était important quand même, mais aussi avoir un message revendicatif contre la spéculation, contre les lois répressives, contre la police, contre le capital. Voilà, c'était des lieux militants de toute façon. Voilà, mais tout a une fin en fait. La fin en fait pour moi, hein, elle est liée un peu à la répression. C'est-à-dire, plus ça allait, plus on était nombreux, plus c'était violent. Et c'est vrai qu'aussi, la violence policière a fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à ce que nous, on a pu vivre, par exemple, c'est-à-dire des nuits d'émeute sur la Croix-Rousse ou la rue Burdeau, eh ben, y avait un brouillard en plein été, et c'est le brouillard, c'était des gaz lacrymogènes, en fait.
Alors, le mouvement de squat des années 80 est un mouvement qui est particulier. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, nous n'avons à Lyon pratiquement que des squats qui sont ce que nous appelons, nous, les squats de la misère. C'est-à-dire des squats, on squatte parce qu'on n'a pas d'autres solutions.
Et pendant ce temps, un coq rouge de la Croix-Rousse se sent hardi.
J'ai cru comprendre que vous aviez un petit peu le même problème qu'à Neuilly, parce que dans le premier arrondissement, puisque vous n'arrivez pas à avoir les 20% de logements sociaux.
Oh ouais.
Elle en est où, la ville ?
Alors, pas tout à fait. Alors, pas de comparaison avec Neuilly, s'il vous plaît. Hein, on a créé 1000 logements sociaux en 10 ans. Hein ? Ça n'a rien à voir avec Neuilly comme population, je signale. Comme mairie, en plus.
C'est le contre-coup de la transformation qualitative de la ville. Lorsque on réhabilite, si on n'a pas une intervention de la cité, des fonds publics, des pouvoirs publics et de la gestion publique, le risque, c'est que très vite, on retombe dans le marché, et le marché, il est ce qu'il est. Pour être plus précis et pour expliquer ça, en 1991, 50% du parc locatif privé de la ville de Lyon avait un loyer de niveau HLM. En 2004, c'est 5,6%. C'est évidemment une différence énorme qui s'explique par des démolitions, qui s'explique par de la requalification, bâtiment, alors soit la reconstruction, soit la réhabilitation, et aussi, bien sûr, une requalification des loyers. Et le marché, à ce moment-là, on voit comment il peut laminer une ville, repousser ailleurs tous ceux qui n'ont pas les moyens de rester. La seule manière d'enrayer ça, c'est une politique publique très très forte, faite de préemption sur les ventes et faite d'intervention du secteur social de l'habitat, pour permettre de conserver sur du long terme à la fois un logement de qualité, et même de très bonne qualité, à des prix qui correspondent aux capacités de la majorité de nos concitoyens. On est mal barré, mais voilà.
C'est pareil, ils nous ont créé, depuis que M. Collomb est le maire, des trucs qui s'appellent les conseils de quartier, soi-disant la population qui participe aux décisions municipales. Et en fait, ces trucs sont consultatifs. Et puis, ils y ont mis un mode de fonctionnement institutionnel qui fait que, de toute façon, non seulement c'est consultatif, mais non seulement, en plus, les problèmes qui sont discutés dans ces conseils de quartier, en gros, c'est les crottes de chien, le stationnement, les murs sales, donc l'affichage, et ils mettent pas vraiment sur le terrain les vrais problèmes qu'il y a dans le quartier.
Tu sais, pour demander d'enlever les crottes de chien, il n'y a pas besoin d'être très organisé, hein. Ça pète pas très haut. Hein. Il n'y a pas besoin d'être très organisé, hein. C'est pas un gros travail, hein. C'est presque un loisir, quoi. Non, je pense de toute façon, c'est des gens qui ont d'autres préoccupations. Ceux qui demandent ça, c'est effectivement peut-être, je sais pas faire une étude sociologique, c'est peut-être plus des propriétaires ou des gens plus aisés ou qui. Des gens qui aimeraient bien que leur quartier soit beau et nickel. Moi, ça me gêne pas hein, qu'il n'y ait pas de crottes de chien. Au contraire, moi, j'aime pas trop les crottes de chien, mais je ne veux franchement pas faire un champ de bataille de ça, quoi. Et, enfin, je pense qu'il y a vraiment d'autres préoccupations avant ça. Et c'est là où c'est quand même mortel de voir que les conseils de quartier sont consacrés à ça, quoi. C'est qu'il y a un vidage par l'ennui et par l'insignifiance. Et voilà, bon exemple de montée de l'insignifiance, quoi. Enfin, s'il y en était besoin d'en avoir encore un, mais à un niveau local, je trouve ça assez terrible.
Les longs escaliers de la traboule des Voraces. Un petit couloir. On arrive sur la fameuse Place Colbert.
Les Place Colbert, 21 juin, fête de la musique, concert organisé par Tiens-moi la pente, bouffe préparée par ses bénévoles. On espère qu'il y aura un peu de monde, de la bonne ambiance, que les gens se rencontrent un peu, que ça fasse un peu comme les repas de quartier, les espaces de gratuité ou... Il y a plein d'échanges et des gens qui se connaissent pas, des gens un peu de tous les horizons qui se rencontrent. Et c'est ces alternatives qui permettent de maintenir le quartier vivant ou de se le réapproprier un petit peu, puisque ça change vite.
faire gaffe à tous les nouveaux bobos qui débarquent, qui achètent des apparts hyper chers, qui refont, qui peuvent pas supporter des enfants qui font du bruit un samedi à midi. Mais voilà, la place Colbert, c'est une grande place et qui doit être réappropriée par tous les habitants qui en ont envie et servir d'exemple à d'autres places, dans d'autres quartiers, partout ailleurs.
Ouais, bon courage, quoi. Tu sers à manger quoi ce soir ?
Taboulet, tarte à la moutarde, tarte à l'oignon, tarte au poireau, bière du Pilat, donc bière bio, vin de Bully bio aussi, et on sert de la bonne humeur, voilà.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Toi qui as le micro à la main et qui as posé la question gentiment, tu n'as pas parlé des bobos. Mais beaucoup de gens, quand on parle de la Croix-Rousse aujourd'hui, me parlent des bobos. Et ils me disent, voilà, mais ça n'a pas changé, la Croix-Rousse n'a pas changé avec les histoires des bobos. Bon, un, je ne connais pas, ou je ne fréquente pas, un bistrot bobo. Ou sinon, il y en a partout. Moi, ça me laisse sur ma faim. Il est vrai que à la Croix-Rousse, donc depuis le début des années 80, peut-être, on peut presque le dire comme ça, mais, ou 85, je ne sais pas, au milieu des années, il y a eu beaucoup de rénovations. Il y a eu, comme partout dans le monde, il y a des nouveaux habitants. C'est évident, c'est partout, mais c'est pas et la Croix-Rousse que je considère entre guillemets un quartier alternatif, n'est pas quelque chose qui vit en dehors du monde. La Croix-Rousse, elle vit avec le monde, sauf que à la Croix-Rousse, il y a quelque chose de différent. Pendant la campagne présidentielle, c'est le seul endroit où Sarkozy n'est pas venu. Bon, c'est stupide, c'est pas important, il aurait pu venir, il se serait pas passé grand-chose, etc. Mais c'est un fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré ces changements, malgré le fait que des nouveaux habitants, peut-être avec plus de moyens, ils considèrent aujourd'hui qu'à la place d'aller habiter des pavillons, il vaut mieux habiter dans les centres-villes. Mais parallèlement à ça, tout ce qui est ce caractère fortement impliqué dans la politique, dans le social, ne s'est pas démenti. Et c'est là l'histoire récente de la Croix-Rousse qui a commencé à faire de ce quartier, sinon le quartier alternatif du monde, mais un des quartiers où il se passe le plus de choses au monde.
Alors, je suis avec Toto, c'est ça ?
Toto, oui. Je suis Toto, oui. La Croix-Rousse, ça me plaît, là. Ça fait des années que je suis là. Et pour moi, la Croix-Rousse, c'est mon deuxième village. C'est le village de mes rêves. Et j'ai trouvé des affinités, des souvenirs, des gens que je trouve des affinités à partager. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ton quartier. Ton quartier, c'est un quartier vivant. C'est un quartier qui a du cœur. Bon, ici, on sait la Croix-Rousse, on ne sait pas Lyon. Là, c'est le village.
Bonne soirée.
Moi, c'est le meilleur quartier de Lyon. Non, c'est un peu nous, les places que je dis, mais c'est vrai, c'est le... c'est un quartier où je sens que bah voilà, tu peux parler aux gens sans qu'ils sentent agressés. C'est un quartier aimé par ses habitants, c'est évident. C'est un quartier qui a de la gueule, tu vois. C'est un quartier qui a de la classe. Rue Burdeau, à une certaine heure de l'après-midi, quand le soleil se couche, bah, il se couche presque en face de toi, quoi. Tu vois, t'as une lumière en plein dans ta gueule et tu vois pas qu'est-ce qui arrive en face de toi. Et voilà. Ouais, c'est ma rue, c'est là où j'ai grandi, la rue Bourdeau.
Et pourquoi on n'écrirait pas fin ?
Ah voilà.
Voilà, est-ce que tu veux bien nous écrire fin ?
Le mot fin. Voilà. Alors j'écrirais le mot fin. Alors on imagine que c'est quelque chose qui monte, qui prend de l'ampleur, qui... Et voilà.
Veuillez écouter en léger différé depuis les sous-sols de l'hôtel fédéral des Trois Gaules ce témoignage. Résumé des épisodes à venir. Les années 2007 sont déjà loin. Souvenez-vous, la Commune 2007.
Donc on a proclamé la Commune de la Colline et on s'est proclamé unilatéralement tous maires de la Colline. Donc depuis 2007, tous les citoyens de la Croix-Rousse sont devenus maires, responsables de leur ville, responsables à tous les sens du terme. On s'occupe les uns des autres et on se prend un petit peu en main et on arrête de se plaindre. Donc depuis cette époque-là, vous pouvez constater autour de vous, toutes les initiatives ont fleuri, les petits vieux sont plus tout seuls, il y a des activités pour les gamins qui sont autre chose que du marchand, on produit des idées politiques neuves, intéressantes, on débat, on sort de chez soi, on se parle entre voisins. Bref, la Croix-Rousse a retrouvé son âme. Donc collectivement, on a fait la première méditation transcendantale pour la baisse des loyers au printemps 2007, qui a contribué à la fameuse chute vertigineuse des loyers à l'automne 2007. Et puis en même temps, on en a profité pour travailler sur les effets de ces méditations. Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? C'est des enfants qui ont de l'asthme, entre autres liés aux voitures. Donc c'est là qu'on a décidé d'abolir les 4x4 à la Croix-Rousse, qu'on a été obligé de repeindre en rose tous les 4x4, de leur enlever leurs roues, etc.
Et c'est donc à cette époque-là, en septembre 2007, que l'ancienne équipe municipale a démissionné en bloc.
Oui, oui, bien sûr, ils ont essayé de se décharger un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une tâche lourde, hein, donc ils avaient besoin de notre relais. Donc ils ont remis au peuple leur démission, et on leur a proposé de rester, mais maintenant de travailler en co-gestion. Hein, c'est-à-dire que il faut plus qu'ils soient tout seuls, parce que c'est aussi des gens qui souffrent de la solitude. Donc on a été là pour les accompagner un petit peu. Dominique Bollier, qui est quelqu'un qui est un petit peu terne, le maire du 4e, là, c'est un petit peu ouvert au monde, en rencontrant un peu ses concitoyens, en voyant qu'il avait des auxiliaires aussi pour mener des politiques intéressantes. Nathalie Perrin, la pimpante maire du 1er arrondissement, a pu aussi trouver là un nouvel élan pour mener une politique radicalement nouvelle.
Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé l'hôtel fédéral des Trois Gaules? A-t-on seulement pensé à soulever Raymond Barre pour chercher dessous? Vous le saurez peut-être en écrivant le prochain épisode du feuilleton véridique et sociétaire. À suivre.